Bonsoir. Les pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 sont dans l'impasse. Et pour cause, les deux parties ne se sont pas accordées sur la signature d'un cessez-le-feu exigé par le M23. Dans son discours sur l'état de la nation samedi dernier devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès, le président Joseph Kabila a notamment déclaré que désormais, la priorité sera la défense de la patrie. Il a aussi appelé à l'unité et à la cohésion nationale. Joseph Kabila a également salué les performances économiques du gouvernement, mais déplore le fait que les conditions de vie des populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Quoi qu'on fasse, journaliste participe à ce débat, il s'agit de Bienvenue Marie Bakoumania, il est rédacteur en chef Desk Économie au groupe de presse Les Potentiels. Bonsoir, Bienvenue Marie Bakoumania.
Bonsoir Guy.
Harold de Bellarmé Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Harold de Bellarmé Badibanga.
Bonsoir Guy.
Et Ali Boukassa, rédacteur en chef de la radio-télévision Tout Tenté, émettant depuis Monedito au Kassai Oriental. Bonsoir Ali Boukassa.
Oui, bonsoir, bonsoir aux collègues.
Les pourparlers de Kampala dans l'impasse, l'adresse du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement samedi dernier. Écoutons cette revue de presse pour savoir comment la presse a analysé ces informations. Samuel Kachak.
Bonsoir. Le discours du chef de l'État congolais sur l'état de la nation devant les sénateurs et députés réunis en congrès et les négociations entre les représentants du gouvernement congolais et les rebelles du M23 ont occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Pour la prospérité, Kabila appelle à la cohésion nationale. Pour parvenir à mettre un terme à la guerre qui se vit à l'est de la RDC, Joseph Kabila prévoit au moment venu un cadre de concertation avec les acteurs politiques, la société civile, les forces de défense et de sécurité. Forum des As-Titres, la nouvelle société civile congolaise salue la tenue d'un dialogue entre toutes les forces vives du pays. Au sujet du même discours, l'Avenir retient également l'annonce du président de la République de faire de la défense nationale une priorité. Le potentiel retient du discours de Joseph Kabila ceci, des trois pistes, c'est-à-dire diplomatique, politique et militaire, seule la dernière semble l'emporter pour la majorité des Congolais. Au sujet de la crise dans l'est de la RDC, le M23 exige un cessez-le-feu avant la poursuite des négociations, titre La Prospérité. Ce journal rapporte qu'alors qu'il lui a été demandé de retirer ses troupes à 20 km de Goma, le M23 a choisi de maintenir la pression sur la ville volcanique en cantonnant ses hommes et ses matériels aux alentours de Goma, voire même dans la ville, avec des éléments en tenue civile, créant ainsi une véritable psychose au sein de la population. De son côté, le potentiel titre « Négociations sans issue ». Ce quotidien estime que cette rencontre de Kampala entre le gouvernement et le M23 est dans un cul-de-sac. Forme de discorde, la signature d'un cessez-le-feu entre les deux parties. D'un côté, le gouvernement refuse de s'engager avec une force négative appelée à être combattue par l'ensemble des nations civilisés du monde. De l'autre, le M23 fait du cessez-le-feu un préalable à la poursuite des pourparlers. Les visions étant diamétralement opposées, il y a lieu de dire, sans jouer au devin, que Kampala ne pourrait déboucher sur une issue heureuse. L'avenir croit savoir que par ce geste, le M23 prépare une nouvelle guerre. Selon ce journal, il y a danger à Kampala, car signer le cessez-le-feu avec le M23, c'est consacrer la partition du pays.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire. Bienvenue Marie Bakoumania. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Desk Économie au groupe de presse Les Potentiels. L'actualité, c'est aussi la crise entre les institutions provinciales de l'Équateur. Hier, le gouverneur Baende, Jean-Claude Baende, a même reconnu ses fautes et a profité de l'occasion pour demander pardon au peuple de l'Équateur et aux hommes politiques.
Ben écoutez, si tel est le cas, c'est une bonne chose. Les hommes d'État, ce sont ceux-là qui reconnaissent leurs erreurs et leurs égarements. Si le gouverneur a reconnu qu'il aurait commis des fautes, ce serait une bonne chose si la province de l'Équateur peut sortir de cette situation de crise. Je pense qu'il faut peut-être, en ce qui me concerne, respecter la procédure. Il faut lire la Constitution comme il se doit. Il faut l'appliquer également comme il se doit. Je pense que le problème de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et de toutes les institutions provinciales démontre que les l'élection de 2006 avec les députés provinciaux qui ont été quasiment ramassés a posé un problème de qualité. Et au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, il se pose un réel problème de qualité d'hommes qu'on avait élus dans cette Assemblée légiférante de la province de l'Équateur. Je pense que si on peut s'en sortir de cette manière-là, ben ce serait une bonne chose et c'est la démocratie qui en sortirait gagnant.
Harold Benarmé Badibanga, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bienvenue Marie Bakoumania, dit qu'il faut appliquer la constitution comme il s'y doit. Vous pensez que le pardon du gouverneur Bahende pourrait débloquer la situation, pourrait mettre fin à cette crise entre les deux institutions?
Je crois savoir que lorsqu'il y a crise, lorsqu'il y a problème, toutes les voies de sortie sont les bienvenues pour arriver à décanter la situation. Et si au-delà du pardon, mais il y a une prise de conscience sincère pour mieux servir la République, mais aussi dans le strict respect des lois qui nous régissent, je crois que ça sera une bonne chose. Mais a priori, il faut préciser que pour respecter la Constitution, il faut la connaître. Alors, il ne faut pas que l'on fasse une république des demandeurs de pardon. Je ne crois pas que si toute autorité, à quelque niveau qu'elle soit, peut se mettre à commettre des erreurs, pensant que après les avoir commis, elle demandera pardon et ça passera. Je crois savoir que lorsque la Constitution est violée, loi des lois est violée, lorsque les lois organiques sont violées, il n'y a pas de pardon qui peut venir remédier à ces erreurs. Il y a des sanctions administratives et même pénales. Je crois savoir que si ça peut encore passer comme situation dans la province de l'Équateur, ça ne devrait pas faire une école, parce que je crains que demain ou après-demain, chez moi au Kassai, ailleurs, les gouverneurs, les ministres et tout le monde commettent des erreurs et demandent pardon comme si la loi n'existe pas. Mais dans tout ce qui s'est fait dans la province de l'Équateur, il y a ce manquement grave de la maîtrise des lois qui nous gouvernent. Et comment voulez-vous que l'on prenne des décisions en violant gravement les lois de la République? Et là, moi, je réponds avec un principe général de droit qui dit « fras omnia corrompit », la fraude corrompt tout. Lorsque des décisions sont prises en violation flagrante des lois de la République, ces décisions sont nulles et de nul effet. Elles ne peuvent pas s'appliquer, étant donné que pour aller au fond, on commence par la forme. Si la forme est biaisée, le fond, on n'en tient même pas compte.
Merci Ali Boukassa. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Tout Tenté, émettant depuis Monédito Kassai Oriental. Est-il impossible que les deux institutions cohabitent pacifiquement à l'Équateur?
Il n'est pas impossible parce que c'est dans tout. Vous savez, Guy, quand deux éléphants s'affrontent, même quand aussi ils dansent, c'est beaucoup plus l'herbe qui en pâtit. Moi, je voudrais que les deux institutions politiques de l'Équateur arrivent à mettre au premier plan l'intérêt de la province, parce que là, on ne voit pas le bénéfice populaire, mais plutôt de certains individus. Je voudrais beaucoup plus aussi mettre l'accent sur l'une des causes de cette guerre politicienne à l'Équateur. Tout viendrait, partirait de Kinshasa. Il y a des hommes à Kinshasa, qui sont ressortissants de la province, qui seraient en train de tirer les ficelles. J'ai suivi le ministre de l'Intérieur le souligner. Il faudra à tout prix que l'on aille à mettre au premier plan, à la première loge, l'intérêt de la province pour que cette situation se décante. Et dans tout ceci, s'il faut revenir au premier pas de la démocratie dans cette province, j'ai envie de parler des élections de 2006. On a vu que la majorité est allée remporter là où elle était minoritaire. Et ça peut aussi s'expliquer par le fait de ce qu'on pourrait appeler le repentir. C'est que l'on serait le regret d'avoir passé quelque chose ou d'avoir fait quelque chose. Donc tout ça, c'est à mettre sur table et parler avec les grands notables, ceux-là qui font pratiquement l'opinion dans cette province, pour que l'on trouve la voie des sorties. Et étant donné que nous sommes pratiquement Merci. Au crépuscule de cette mandature, il n'y a pas de quoi beaucoup plus créer des théâtres qui rend malheureuse la population.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Les pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 sont dans l'impasse. Et pour cause, les deux parties ne se sont pas accordées sur la signature d'un cessez-le-feu exigé par le M23. Pourparlers de Kampala entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23, la réunion de mercredi dernier est suspendue aussitôt commencée. Et pour cause, les deux parties ne se sont pas accordées sur la signature d'un cessez-le-feu exigé par le M23. Les facilitateurs ougandais s'employaient à consulter séparément les deux parties pour une issue favorable, mais visiblement la tâche ne lui a pas été facile. Il n'y a pas eu de communiqué sanctionnant la fin de la réunion. C'est ce que nous dit de Kampala notre envoyé spécial Innocent Olinga.
Le M23 qui réclame la signature de ce cessez-le-feu justifie sa demande par la volonté de la population du Nord Kivu de vivre dans la paix. Nous sommes ici pour la paix et nous devons commencer par signer un cessez-le-feu, nous a déclaré Bertrand Bissimois, porte-parole de ces mouvements rebelles. Mais la délégation gouvernementale voit un piège dans la démarche du M23. Un des membres de cette délégation s'explique.
Cessez-le-feu, qu'est-ce que ça veut dire? Leur accorder l'espace qu'ils occupent anarchiquement aujourd'hui? Espace tampon? Leur accorder l'administration? Ça, ce sont des techniques intelligentes d'occupation de terrain. Nous ne sommes pas prêts, nous qui sommes venus à la délégation, cautionner une démarche qui tend à la partition, à la balkanisation. On ne peut pas signer cessez-le-feu avec une force négative.
Est-ce un blocage qui s'annonce? Difficile de le dire maintenant, même si les dessins commencent à prendre forme. Mais quant aux facilitateurs, les ministres ougandais de la Défense, visiblement, ils ne se fatiguent pas. Il a prévu une autre rencontre ce jeudi, c'est après des consultations séparées avec les deux parties. Kampala, Innocent Olinga, Radio Kapi.
Bienvenue Marie Bakumanya. Comment vous analysez cette situation? Le M23 conditionne la poursuite des pourparlers par cette signature de cessez-le-feu.
Écoutez, c'était prévisible. Hein, c'était prévisible. Le M23 tient à s'affirmer comme une force congolaise. Il l'a obtenu à plusieurs reprises et il veut maintenant pousser le gouvernement au bout de son retranchement et le pousser quasiment à le considérer comme un partenaire pour la paix. C'est un piège qui se referme sur le gouvernement. La démarche elle-même, dès le départ, n'était pas bien réfléchie et là, le M23 ainsi que les agresseurs, le Rwanda, l'Ouganda, sont en train de faire refermer ce piège sur le gouvernement qui ne pourra que avoir ses yeux pour pleurer.
Mais le M23 exige cessez-le-feu, justifie cela par la volonté de la population du Nord Kivu à vivre dans la paix.
Mais écoutez, ce sont des discours de baratin. Hein. Ça, c'est pour baratin. Quand on dit que la population veut vivre dans la paix et dans l'entretemps, on a pris le Kalachnikov, on est en train de tirer. Non, il faut, je pense qu'il faut aller au-delà de ces discours de propagande qui ne nous avancent pas du tout. Vous savez, le vrai problème qui se pose avec ce cessez-le-feu, c'est la partition du pays. La partition du pays, elle est de fait, elle est là, et le M23 voudrait l'obtenir de manière tout à fait juridique. Il voudrait avoir un instrument juridique de partition de fait du pays. Mais c'est la faute au gouvernement. Ça, je ne le dirai jamais assez. C'est la faute au gouvernement qui a laissé le pays dans l'état où il est sans une armée. Pour le moment, si l'on se sent capable de ne pas signer l'accord de cessez-le-feu et que le M23 demain va reprendre les armes et prendre la route de Goma pour reprendre Goma, si l'on se sent capable, tant mieux, hein, qu'on aille même au-delà de 20 kilomètres. Mais j'ai appris par ailleurs que ces discours flatteurs de M23 qui portent, j'ai appris que le secrétaire général a mordu à l'hameçon, il invite le secrétaire général des Nations Unies, je vais dire Ban Ki-moon, invite déjà le gouvernement congolais à signer le cessez-le-feu. J'ai appris également que le médiateur, il comprend la position du M23. Je pense que le gouvernement est dans une position extrêmement délicate face à l'opinion publique nationale. Le gouvernement a très peu d'espace pour manœuvrer et c'est extrêmement difficile pour le gouvernement actuellement parce que cette affaire de cesser le feu, ça risque d'emporter tout l'édifice.
Harold Bellarmé Badibanga, le M23 serait en train de piéger le gouvernement parce que par cette signature, le gouvernement va consacrer la partition du pays.
Guy, c'est la conséquence de la congolisation du M23. Congolisation du M23, une marionnette fomentée de toutes pièces par l'Ouganda, le Rwanda, avec leurs mentors, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, je les ai toujours cités sans mettre l'eau dans la bouche parce que je suis convaincu de ce que je dis. Cette congolisation donne maintenant des conséquences. les gens qui ont des kalachnikovs, qui ont violé, tué, pillé à l'est de la RDC, exigent un cessez-le-feu, soi-disant pour sécuriser les personnes qui sont en train de violer, sur lesquelles ils sont en train de commettre des exactions. C'est quand même grave. Mais il y a un problème. Je suis en train de prier le bon Dieu pour que les jours avancent vite, pour que d'ici le 29, le 28, l'Ouganda ne soit plus à la présidente de la CIRGL, parce que tous les pièges tendus par le M23 ne sont pas une émanation du M23, c'est une émanation de Kagame et de Museveni. Mais par la force des choses, parce que nous sommes tous dans la CIRGL, voilà comment un soi-disant médiateur est en train de jouer le jeu des rebelles. Alors moi, quand je fais la corrélation entre ce que le M23 réclame et les propos de Kabila la fois dernière devant le Congrès, je suis un peu regardi, parce que je me dis, au regard de la promesse de Kabila pour dire que la priorité c'est la défense, et c'est vrai que nous avons trois fronts, le front politique, diplomatique et militaire, tous les efforts devront être concentrés sur le front militaire. C'est-à-dire que, nonobstant tout ce qui s'est fait à Kampala, je crois savoir que le cessez-le-feu n'aura jamais lieu, parce qu'il suffit de se tromper une seule fois, même en bâillant et en laissant l'opportunité à ce cessez-le-feu pour que le Congo n'existe plus. Merci. La manie, dit, je finis par là, du M23, c'est d'obtenir, au vu au sud de tous, de la communauté internationale, ce cessez-le-feu pour que plus jamais les FARDC n'aient pas le courage de les agresser et de les demander pas de quitter Masisi ailleurs, mais de rentrer au Rwanda d'où ils viennent. Donc, j'exhorte le président de la République, le gouvernement et tous les Congolais pour ne jamais céder à cet échappatoire qui frise l'inceste.
Merci. Merci. Ali Bokassa, puisque le cessez-le-feu consacre les statu quo, le gouvernement n'a-t-il pas raison de refuser d'accéder à cette demande du M23?
Dieu merci, dit que le gouvernement ait compris et bien vu que là c'était le jeu du M23 avec tous ses parrains, Ouganda, Rwanda, qui étaient en train d'être joués. Dieu merci encore une fois que la délégation de notre pays le remarquait et mentionnait. Mais moi je voudrais dire, la semaine passée nous avons parlé de cette diversion, de cette distraction signée au M23. À Kampala, c'est une distraction, c'est un passe-temps. C'est vrai qu'il n'y a pas de nation sans contradiction, débat, tout le reste, mais les tergiversations du M23 commencent à révéler que c'est un mouvement qui n'a pas d'agenda, c'est un mouvement qui n'en a pas un. S'il en a un, il est vide. Et le gouvernement gagnerait en utilisant d'autres pistes, parce que je crois que notre gouvernement doit avoir un plan B, un plan C, au cas où A est itinéré. C'est par exemple évoqué ici le cas du plan SADC, Afrique australe. Vous imaginez, pour donner à voir à cette vanité que moi je vois à Kampala, Museveni est le président de la CIRGL. C'est son ministre de Défense nationale qui dirige les assises, qui fait les bons offices. Le Rwanda, c'est pratiquement parmi ses acolytes. Vous croyez qu'il peut orienter les débats, il peut orienter les échanges dans le sens de la faveur du Congo démocratique? Je ne crois pas. Il ne peut que faire, parce que là, il y a pratiquement la danse, sinon le jeu d'intérêt. Et Museveni a beaucoup plus à gagner à orienter cela en défaveur de Kinshasa. C'est là que Kinshasa doit, une fois de plus, revenir, si conseil m'était demandé, d'utiliser le plan B. Ici, le plan B, c'est beaucoup plus la SADC, parce qu'avec la SADC, on a vu que dans l'histoire, il y a des solutions qui ont été trouvées par elle, et du côté de Kampala, c'est une distraction, parce que, vous savez, il y a un adage kanyok, donc de Mouyeditou, qui dit « Si la pluie vous surprend plus d'une fois au même lieu, au même endroit, donc vous êtes idiot. » Aujourd'hui, dans l'histoire, vous vous souviendrez de l'affaire Kunda Batoare. Ça nous a abouti à quoi? Il y a aujourd'hui Bosco Taganda.
Merci Ali.
Ça va encore, s'il faut que l'on résolve une fois pour toutes cette question de l'Est, il faudra que l'on puise
dans notre fort intérieur et surtout dans notre savoir-faire. Nous sommes passés par des situations aussi importantes, délicates que celles-ci. Nous en sommes sortis haut la main. Merci. Et je crois que ce n'est pas fini. Nous restons toujours ces mêmes Congolais.
Bienvenue Marie Bakoumania. Ali Bokassa lui propose qu'on puisse utiliser le plan B, c'est-à-dire le schéma SADC. Ne pensez-vous pas que ce schéma pourrait créer aussi les statu quo, hein? On pourrait assister au scénario de 1998, hein? C'est-à-dire les pays de la SADC envoient des troupes ici au Congo qui viennent appuyer le régime Kabila et qui viennent en fait empêcher les M23 de pouvoir revenir dans la ville de Goma. Et de l'autre côté, l'Ouganda et le Rwanda appuient les M23 pour que ces mouvements rebelles puissent garder les deux territoires, les deux vastes territoires qu'ils contrôlent. Et donc, ça revient au même, en fait. C'est le statu quo qui sera consacré.
Guy Maté, il n'y a pas de plan A ni de plan B. Il n'y a qu'un seul plan de sortie des crises durables pour la République démocratique du Congo. C'est se doter d'une armée républicaine professionnelle, dissuasive. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Tant que nous allons nous masturber en se disant que la SADC pourra nous aider, c'est la CIRGEL qui pourra trouver la solution avec la force neutre, c'est l'ONU avec la MONUSCO, nous allons nous empêtrer davantage dans la boue. La solution, c'est que nos propres fils et filles, c'est que nous-mêmes, nous nous défendions au prix du sacrifice suprême. Et malheureusement, pendant que Mobutu a commencé à défaire les phases, Laurent Désiré Kabila a tenté tant bien que mal de remettre les choses en place. Ça n'a pas marché. Le 1+4 a désarticulé tout. On est encore arrivé à intégration, un mixage, brassage. Mon ami Harold pourra m'aider, pourra compléter la liste. Elle est tellement longue.
Très longue.
On a désarticulé, on a désintégré complètement l'armée. Et c'est comme si c'est fait à dessein. Et c'est comme si les dirigeants congolais, ils ont pris à cœur de jouer à fond cette partition de la désarticulation de l'armée nationale. Et ce faisant, on a affaibli le pays, on a affaibli l'État, on a affaibli l'instrument qui fait la valeur d'un État, qui fait la qualité d'un État, c'est-à-dire l'armée. Et donc, tant que ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire la majorité et le président Kabila, ne prendront pas à cœur. Ils nous ont dit dernièrement que nous avons pris à cœur, désormais la priorité c'est l'armée. Nous allons les juger sur pièce. Il faudrait que nous voyions des actes concrets, des actes qui poussent à croire que les dirigeants congolais ont pris conscience que la défense de la République passe par une armée, par des services de sécurité professionnels. On ne doit plus avoir une armée tribale comme on a connu avec Mobutu, comme on a connu à une certaine époque, comme on connaît à une certaine époque aujourd'hui. On doit avoir une armée républicaine où toutes les fils et filles du pays sont en train de se battre. Et là, la logistique proviendrait du gouvernement que l'on cesse de nous répéter cette rengaine que on serait sous embargo. Tout le monde a dit, c'est clair, l'embargo ne concerne pas le gouvernement. Et si l'embargo concernerait le gouvernement, moi j'aimerais un jour que le ministre de la Défense nous dise que j'ai passé commande aux États-Unis et qu'on ne m'a pas vendu les armes. Merci. Je pense que c'est de cette manière qu'on nous convaincrait.
Merci Harold Bellarmé Madibanga. Bienvenue Marie Bakoumania. Propose qu'on puisse avoir une armée républicaine, une armée dissuasive. Mais pour le moment, il faut sauver la ville de Goma. Pour le moment, il faut sauver le Nord Kivu. Pour le moment, il faut sauver la République démocratique du Congo. Alors que cette armée-là, on semble ne pas l'avoir. Que faut-il faire maintenant pour trouver une solution à cette menace qui guette la République démocratique du Congo?
Non, cher Guy, il n'y a pas d'alternative que celle de cette armée, la forte républicaine. Vous savez, lorsqu'on parle de la SADC aujourd'hui, en relation internationale, il n'y a pas de beaux yeux. Toutes les forces qui sont venues, le Zimbabwe à l'époque, c'était, nous savons ce que ça nous a coûté après. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que hier égale à aujourd'hui par rapport à la détermination du chef de l'État. Je sais pourquoi le M23 exige un cessez-le-feu. C'est un service assez organisé aussi. Il s'est rendu compte qu'avec tout ce temps qu'il y a eu dans des pourparlers et pris qu'il croyait prendre, le M23 pensait que pendant tout ce temps, il serait seul à se réorganiser pour faire encore d'assaut sur la ville de Goma. Mais ma foi, au regard du discours qu'il tient maintenant à Kampala, je me rends compte qu'il s'est rendu compte que dans le rang des fardes, il y a une foudre qui se prépare pour des contre-attaques et pour les ramener jusqu'à Kigali. Alors je me dis que toutes les voies, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas à mettre de côté. Mais il y a une voie prioritaire. On dit toujours qu'il faut prioriser le priorisable. Le priorisable aujourd'hui, ce sont les forces armées de la République démocratique et du Congo. Il faut que l'on comprenne que sans cette armée forte républicaine apolitique, on ne peut pas compter sur la SADC, la CIRGL et consorts, encore que, ça il faut le dire, l'impérialisme joue sur toutes ces organisations internationales. Et alors moi je me dis, c'est vrai, il faut collaborer étant donné que nul n'est une île. Mais sans une armée forte, les armées étrangères ne viendront pas se battre à notre place. Voilà pourquoi j'encourage la décision prise déjà par les autorités de réformer les forces armées de la République démocratique du Congo.
Merci Ali Bukasa. Récemment, le président Obama a appelé le président Kagame pour lui demander de cesser d'appuyer la rébellion du M23. Et la question que se pose beaucoup de personnes, c'est celle de savoir pourquoi Obama sort de son silence seulement aujourd'hui, huit mois après la reprise de la guerre au Nord Kivu.
Dis-moi, permettez-moi de placer un mot par rapport à tout ce que les deux confrères de l'armée, Harold et puis Bienvenue, ont dit il y a peu. Vous dites qu'il faut privilégier les FARDC. Moi, j'ai confiance en les FARDC. Il ne faut pas s'entraîner le jour du match même. Mais bien avant qu'on réforme, parce que la réforme va prendre du temps. Et à l'est là-bas, on va faire quoi en même temps? Donc moi je voudrais que l'on fasse quelque chose pendant que la réforme se fait. Et pour répondre à votre question, Guy Maté, Barack Obama, il n'y a pas longtemps, il a reçu la lettre des 13 congressmen, si j'ai bonne mémoire. C'est parmi les éléments qui l'ont sorti de sa maison blanche, pour qu'il dise quelque chose au sujet de cette guerre de l'Est. Mais aujourd'hui, cette déclaration, je ne crois pas beaucoup plus aux déclarations. C'est vrai que sur le plan diplomatique, ça vaudrait quelque chose. Mais aujourd'hui, nous avons besoin du concret. Que l'on voit les États-Unis d'Amérique aller jusqu'au bout. Parce que plus d'une fois, les commissions d'experts des Nations Unies ont montré noir sur blanc que le Rwanda soutient le M23. Pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure? Cette vitesse-là des déclarations, oui, c'est vrai, merci. Elle est la bienvenue, mais nous voudrions voir les actes de ces déclarations qui font déjà le chapelet.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Dans son discours sur l'état de la nation samedi dernier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président Joseph Kabila a notamment déclaré que désormais, la priorité sera la défense de la patrie. Il a aussi appelé à l'unité et à la cohésion nationale. Écoutons le discours du président Joseph Kabila sur la défense de la patrie.
Certes, nous poursuivons nos efforts diplomatiques et politiques, mais après toutes les expériences vécues, comment ne pas constater que l'attitude et les agissements de ceux qui nous font la guerre de manière récurrente prouvent que seule une armée républicaine forte nous permettra de garder notre dignité et de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Désormais, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie. La défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, une armée nationale, apolitique et professionnelle. Bref, une armée qui rassure notre peuple dans toute sa diversité, une armée dont notre peuple sera fier, et qui soutiendra en tout temps et en toutes circonstances.
Joseph Kabila a également salué les performances économiques du gouvernement Matata, mais déplore le fait que les conditions de vie des populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions. Écoutons cet extrait sur l'économie.
Quant aux réformes économiques, elles ont donné des résultats encourageants. Un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation de 3%, un des plus bas de notre histoire. Une monnaie nationale stable et des réserves d'échange de plus en plus importantes. Cependant, beaucoup de Congolais semblent fatigués d'entendre parler d'excédents budgétaires et de la stabilité du cadre macroéconomique. Alors que les conditions de vie de nos populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions. Un peu de créativité, doublée Le volontarisme s'impose.
Harold Belarmé Badibanga, je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Désormais, la priorité sera la défense de la patrie. À cet effet, le chef de l'État a appelé les jeunes à se faire enrôler au sein des FRDC. Votre analyse?
Mon analyse, c'est que le discours du président de la République devant la chambre basse et la chambre haute du Parlement réunie en congrès, c'est un discours réaliste qui a touché les réalités de la population, tant sur le plan politique, militaire, que même diplomatique et même social aussi. J'ai vu les députés de l'opposition, tout comme de la majorité, être à l'unanimité, pour une fois, d'accord avec le président de la République. Nous sommes engraissés, oui, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut minimiser l'aspect social de la population? Il a donné des pistes de solutions pour ne pas revenir à ce que l'on a dit tout à l'heure. Il a précisé que toutes les voies peuvent être utilisées, mais la voie la plus prioritaire et essentielle, c'est le renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. Il suffit juste, Guy et Maté, que les forces armées de la République démocratique du Congo soient fortes pour que, quand on ne passe même pas par la CIRGL, la SADC, même les forces de l'ONU ne viendraient pas en République démocratique du Congo. De ce point de vue-là, le discours du chef de l'État était réaliste.
Bienvenue Marie Makoumania, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef desk économie au groupe des presses Le Potentiel. Cet appel suffit-il? Ne fallait-il pas commencer par repenser l'organisation des FRDC, repenser la coordination des FRDC et le reste se ferait tout naturellement? Cela veut dire qu'il y aurait un travail à faire en amont?
Absolument, il faut un travail en amont. J'ai suivi une fois le ministre Mwando Simba à l'époque qui nous a présenté un plan de restructuration des FRDC qui irait jusqu'en 2014 ou 2024, je ne sais plus exactement. C'est dire que c'est un travail de longue haleine. C'est dire également que pendant tout ce temps, on s'est mis à danser les Njalelo. Au lieu de travailler, on s'est mis à jouir des avantages d'être aux affaires plutôt que de penser à l'essentiel, c'est-à-dire la défense de l'État. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Heureusement que le chef de l'État vient de se rendre compte que l'armée était délaissée et que maintenant, il faille en faire une priorité. Parce que comment est-ce qu'on peut croire avoir disposé d'un État sans une armée? C'était inconcevable. Le rail sur lequel les structures de l'État vont marcher, on l'a pas et on estime qu'on a l'État parce que on a un chef d'État, on a un parlement, on a un gouvernement. Je pense que maintenant on est revenu les deux pieds sur terre et maintenant qu'on est revenu sur l'essentiel, c'est-à-dire mettre en place une armée, et en ce moment-là, nous pourrions voguer normalement. Mais les préparatifs, ça va prendre du temps, ça prendra le temps que ça prendra. Maintenant, il faut parer au plus pressé et parer au plus pressé, c'est défendre la nation, défendre par rapport à la progression du M23.
Merci Ali Boukassa, rédacteur en chef de la radio-télévision tout en émettant depuis mon édite au Kassai oriental. Il y a trois approches qui ont été annoncées par le gouvernement pour gérer cette guerre. Il y a l'approche militaire, politique et diplomatique, mais on semble privilégier beaucoup plus l'approche militaire.
Oui, l'armée, c'est le bouclier d'une nation. Je suis d'accord avec la vision du gouvernement, beaucoup plus la démarche du président de la République. Et au passage, je dois placer un mot par rapport au discours du président Kabila. C'est un discours qui arrive au moment et surtout un discours très sincère parce que quand vous voyez une autorité reconnaître certains, ça ne va pas de l'action de son équipe. Il y a de quoi vraiment dire chapeau à cette autorité. De deux, l'option militaire, l'option diplomatique, l'option politique, c'est comme la boîte de vitesse d'une voiture. Il y a la vitesse, la première vitesse, la deuxième, la troisième. Et chacune des vitesses se fait utiliser selon le terrain. Moi, je voudrais ici que beaucoup plus croire à l'option militaire. Militaire parce que ça va résoudre, je le souhaite, le plus tôt possible la question de l'Est. Parce qu'il faudra qu'on en arrive aux festivités avec cette réalité, avec cette ambiance belliqueuse. Non, nos compatriotes, nos sœurs, nos parents de l'Est ont besoin de passer ces festivités dans la paix, dans le calme. Voilà pourquoi je rencontre le président de la République quand il met l'accent sur l'option militaire. Et je suis heureux qu'à Mouenedit, au Kassai oriental, Mouenedit et le territoire de Bilou viennent en deuxième position en ce qui concerne le recrutement des jeunes. C'est ma radio, notre radio, il y a aussi donné du sien en ce qui concerne la sensibilisation. L'option militaire, c'est vrai, mais il faudra que l'on voie aussi comment l'utiliser.
Merci.
Et là où ça n'irait pas, quelle autre option peut intervenir? La diplomatie, la politique. Il faut y aller avec toutes les trois, mais c'est vrai, il faut mettre l'accent sur l'option militaire.
Merci, Harold de l'armée Badibanga. Le chef d'État a aussi appelé à l'unité et à la cohésion nationale.
Mais oui, je me suis toujours rendu compte que le Congolais, de manière générale, n'a pas d'âme. Le Congolais, de manière générale, n'a que son individualité, son individualisme. Cet appel tombe à pic parce que lorsque... Là, j'aime toujours citer la phrase chère à un politicien congolais, Pius Mabilou, qui a toujours dit « Lorsque le pays est agressé, ça ne se marchande pas ». C'est-à-dire qu'au moment où le pays est agressé, on ne peut pas entendre les discours du genre « Bon, nous encourageons ceux qui agressent le pays parce que il n'y a pas de démocratie. Nous faisons ceci parce que il y a des frustrations. » Papa, c'est au nom des frustrations que vous ne pouvez pas vous décider de ne pas prendre le Kalachnikov et que vous vous décidez d'encourager ceux qui pillent, qui tuent à l'est de la République.
Il ne faudrait pas non plus afficher des attitudes qui ne favorisent pas cette cohésion nationale.
Non, vous savez, il se pose un problème. On n'a pas de politiciens au Congo de manière générale. Nous avons plutôt des ventriotes. Parce que ce sont des gens...
C'est trop fort quand même.
C'est trop fort, mais malheureusement, cher ami, c'est la vérité. Il y a des gens qui viennent dans la politique, pas parce qu'ils aiment le Congo, mais parce qu'ils viennent chercher à manger et à boire. Ce qui ne passerait pas. Moi, je suis convaincu que lorsqu'on est agressé, nonobstant nos divergences internes, encore que beaucoup des divergences n'ont pas de sens d'être,
merci.
Mais on doit d'abord s'unir pour la cohésion nationale.
Merci. Bienvenue Marie Bakoumania. Tout en saluant les performances économiques, le chef de l'État a déploré le fait que ces succès économiques n'impactent pas sur les vécus quotidiens des Congolais.
Oui, ça me rappelle un certain Mobutu Sese Seko devant le comité central du mouvement populaire de la Révolution qui a déclaré, comme pour un peu minimiser Kengo Adondo, on ne mange pas la rigueur. Ça me rappelle ça, et les résultats ont été catastrophiques sur tous les plans. Et aujourd'hui encore, on répète à Matata, on ne mange pas la rigueur.
Donc l'histoire se répète.
L'histoire se répète malheureusement. Et les chiffres vont parler. Je vais vous donner les chiffres. Qu'est-ce que la République rate? Par le simple fait qu'on a fait le mauvais diagnostic. Le mauvais diagnostic, ce n'est pas que, on a mal redistribué, non. Il y a des gens qui accapare les gros du revenu de la République. Qu'est-ce qu'on en fait? Je prends pour exemple, qu'est-ce qu'on a fait du PCA et de l'ADG, de la GECAMINE, qui ont fait que le PEC 2 puisse connaître le crash actuel? C'est ça aussi des comportements qui pouvaient pousser à la cohésion nationale. On devrait les sanctionner parce que le pays a perdu 240 millions. Le pays, aujourd'hui, j'ai lu un communiqué de la Banque africaine de développement qui suspend lui, elle aussi, son appui à la République démocratique du Congo. C'est à peu près 80 millions de dollars. Ça fait 320 millions de dollars. Cette fois-ci, le fait qu'on n'aura plus ces appuis-là, la maîtrise du cadre, les cadres vont imploser. Le gouvernement aura des pressions telles que il ne pourra plus gérer les affaires comme c'était auparavant, comme on avait même ces semblants de maîtrise des indicateurs qui étaient au vert. Donc, c'est dire que la bonne décision serait de sanctionner ceux qui se comportent en jouisseurs, mais de demander au gouvernement de faire une redistribution équitable. Je reproche, par exemple, au gouvernement Matata de ne pas faire ce que Mouzito a fait. Mouzito, quand il a connu des augmentations du budget, c'était 500 millions de dollars qui étaient orientés vers le paiement de salaire. Matata ne l'a pas fait.
Et cela a eu un impact sur les sociétés congolaises?
Mais absolument. Les professeurs,
on l'a ressenti.
Les professeurs d'université aujourd'hui peuvent toucher des
sommes. Les mêmes critiques étaient émises à l'endroit de Mouzito à l'époque.
Mais écoutez, là, c'est vrai, le fossé était grand, mais là, il y avait au moins un pas. Mais dans au gouvernement Matata, ils n'ont même pas pensé qu'on a augmenté le budget, qu'on prenne une quote-part, qu'on remette au salaire pour améliorer les sociales. Ça se reproche. reproche, on peut le formuler. Mais à la fin des comptes, le président de la République n'a qu'à tirer les conséquences. Parce que cette majorité, c'est sa majorité, ce gouvernement, c'est lui qui a désigné ce gouvernement. Merci. Je pense que ce sont là des terrains sur lesquels moi je me hasarderais pas si j'étais le président de la République, parce que c'est tirer une balle dans la jambe.
Ali Boukassa, comment faire pour que ces succès économiques puissent avoir un impact réel sur les sociales des Congolais? Bienvenue Marie Bakoumania, propose une répartition équitable des richesses.
Il faut ce que le président Kabila fait. L'œil du maître doit engraisser le cheval. Parce que le président de la République, c'est une institution. Le gouvernement en est une autre. Et il y a le principe de collaboration. Le président de la République doit continuer sa démarche. Celle de suivre, de faire le suivi du gouvernement. Si vous parlez avec le président Kabila, vous sentez que vraiment, il a des soucis pour ce pays. Mais quand vous suivez les discours de son gouvernement, il n'y a pas pratiquement de mariage, il n'y a pas pratiquement de compatibilité. On croirait peut-être que ce sont des gouvernements de cohabitation. Moi, ce que je voudrais proposer comme solution, c'est quoi? Qui est le suivi du président de la République, lui-même qui est répondant face au peuple.
Merci.
Je vais vous donner une image. Maîtrise des paramètres macroéconomiques. Dans le premier semestre de l'année 2012, à Monedito, une boîte d'allumettes coûtait 20 francs congolais. Aujourd'hui, c'est à 50 francs congolais. Un cube de savon qui revenait à 150 francs congolais, aujourd'hui, ça s'achète à 200 francs congolais. Et à ce bas peuple, vous allez raconter scientificité, vous allez raconter maîtrise des paramètres macroéconomiques? Non.
Merci Ali Boukassa. Harold Bellarmé Badibanga, une certaine opinion pense que ces propos constituent une mise en garde des chefs de l'État à l'endroit du Premier ministre.
Non, mais vous savez, c'est pas pour rien que la Constitution de la République appelle le président de la République le garant de la nation, c'est-à-dire le garant du bon fonctionnement des institutions. Le Premier ministre et toute la suite dépendent du chef de l'État. Lorsqu'il constate que ça va, il dit que ça va. Lorsqu'il constate que ça ne va pas, c'est aussi dans ses prérogatives.
Pensez-vous que le Premier ministre agit sans le consentement du président de la République?
Non, mais vous savez, c'est un cadre de collaboration. Il ne peut pas agir sans consentement du président de la République, mais c'est à quoi on est en train de faire face. C'est une évidence. C'est que le chef d'État s'est rendu compte que l'amélioration du social du Congolais pose problème. Cela ne veut pas dire que c'est la preuve d'un manque de collaboration entre le président de la République et le Premier ministre, mais c'est une évidence. Et c'est devant cette évidence que le chef de l'État dit ça doit changer parce que le peuple doit manger.
Et cela veut dire aussi que les responsabilités doivent être partagées.
Les responsabilités doivent être partagées, mais nous devons être clairs. La situation, c'est lui qui répond de l'action du gouvernement devant l'Assemblée nationale, c'est le Premier ministre, c'est lui qui a la gestion quotidienne du pays de ce point de vue-là. Voilà pourquoi le président de la République, en tant que garant de la nation, devait tirer une sonnette d'alarme. Mais c'est une occasion pour moi pour féliciter ce qui est en train d'être fait maintenant par la réserve stratégique générale qui distribue quand même à vil prix les denrées alimentaires pour permettre au peuple congolais de fêter dans de bonnes conditions.
Merci, c'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était à la technique et Alain Hirung à la réalisation assistée de Samuel Kachak et de Kéline Kouté sous la supervision de Julien Nyamouni. Devant ces micros, Guy Maté, merci et meilleurs vœux pour l'année 2013 qui commence dans 10 jours.